Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous savoir là. Comment ça va ce samedi? Alors, figurez-vous que dans cette émission sur Europe 1, nous vous proposons chaque semaine de découvrir quatre sites situés dans l'Hexagone et dans des régions différentes et qui présentent bien sûr chacun une particularité. La preuve, voici le menu. Alors, dans la catégorie site du patrimoine, aujourd'hui un couvent. Vous me direz, oui, bon, bah, et alors, il y en a des mini en France. Pas faux. Oui, mais. Celui-là est original, très original. Non seulement c'est le siège d'un éditeur de BD en plein département de l'Isère, mais en plus, il abrite aujourd'hui des gravures de Rembrandt, c'est vous dire. Qu'est-ce qu'elles font là? Bonne question. On vous répondra tout à l'heure. Dans la catégorie du savoir-faire, on sait. Pour découvrir des techniques ou des matériaux qu'on ne connaît pas, direction le Tarn, à la découverte du pastel, P majuscule, qui deviendra la couleur, vous ne savez peut-être pas, la couleur des nobles à l'époque et des uniformes de l'armée. Alors pourquoi ça? Pourquoi là? Eh bien, on ne vous cachera rien. Au contraire. Et enfin, dans la catégorie site de plein air, à la fin d'émission, à ne pas manquer notre partenaire du guide du routard Gavin Clément-Terruise.
Présent.
Vous suggère un paysage rouge, tout rouge. Rouge comme quoi? Bah, rouge comme la planète Mars, tiens. Alors, on ne connaît pas très bien, mais on a eu des photos. Pour y aller, on y va en train, pas en scoop volante, mais en vélo, c'est dans l'Aveyron. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur place? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, d'abord, on est étonné. Et ça prend du temps. Pourquoi? Je vous dirai tout dans un instant, car maintenant, c'est l'heure du site insolite. On commence par ça. Imaginez ce site situé dans les Alpes-Maritimes qui rassemble, notez bien, au même endroit, un jardin réalisé par un des jardiniers stars que compte la France, Gilles Clément, qui compte aussi un château avec pas une, pas deux, mais trois tours, et c'est assez rare, et une collection d'art contemporain qu'on appelle ici de l'art concret. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'explique pas le lien qu'il y a entre tout ce que je viens de dire. Alors ça s'appelle Espace de l'art concret. Pourquoi? Ça aussi, on va vous répondre. Mais Gavitz, bonjour Gavitz, comment
bonjour,
ça va?
Bonjour.
Alors ça reste pour l'instant une énigme, hein, Espace de l'art concret.
Ben oui, bonjour William, bonjour à tous. Déjà, alors, je vous dis précise, l'espace de l'art concret dont on parle se situe à Mouans-Sartoux. Alors, c'est dans les Alpes-Maritimes. Oui. En effet, on est au sud-est de Grasse. Alors, pour l'art concret, il faut que je vous explique. Alors, c'est un art, déjà, qui débute,
très
on
bien,
va dire...
Merci, là.
À bientôt. Qui débute dans les... C'est au niveau des années 30, on est en Europe. On part du principe qu'une œuvre doit, avant d'être conçue, être réfléchi. Ça doit se passer dans la tête, dans l'esprit et sans lien avec la nature, en fait. Tout part de la tête. Et on fait ça avec des matières plastiques, simples,
oula,
et des techniques très mécaniques.
On va se faire tirer les oreilles par les écolos, là. Ah, que du plastique?
Non,
mais
alors,
pas que.
Pas que. Alors, c'est une suggestion, hein. Tout n'est pas comme ça. Mais c'est un art qui est basé sur les lignes, sur les surfaces et sur les couleurs, tout ça de façon très, très, très géométrique. En gros, si je devais résumer, ça serait un peu l'opposé de l'impressionnisme.
Ah oui. Là, c'est plus clair.
C'est un peu plus clair.
Qu'est-ce qu'on voit, alors? Pour le coup, qu'est-ce qu'on voit exactement quand on arrive là et pourquoi c'est là dans ce lieu?
Il fallait un endroit, j'ai envie de dire, un peu hors du commun pour présenter cet espace. Et les promoteurs de cet endroit ont eu l'idée de faire trois lieux en un. Donc, alors, d'abord, vous avez le château, en effet, le château
qui se visite, je suppose.
Exactement, le château de Mouans. C'est un vrai château, hein, construit au
16... On dit Mouans ou Mouans?
Mouans. On posera la question à notre invité tout à l'heure.
Ouais.
Et construit au XVIe siècle. Et qui a, alors ce château, il a la particularité, c'est qu'il est triangulaire. C'est très rare. Normalement, on n'a pas un plan triangulaire.
Je vois des photos, il est magnifique. Là.
Il est beau, hein, avec ces tours-là.
Avec trois tours, effectivement. Et c'est assez rare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour?
Eh bien, on a l'espace de l'art concret. Alors, c'est quoi? C'est d'abord un jardin confié à Gilles Clément. Alors, Gilles Clément, on le retrouve dans plusieurs endroits en France et partout dans le monde. Hein. C'est, genre, c'est une espèce de génie au niveau des génies. C'est
lui,
des papes.
On lui a commandé de faire un jardin particulier.
C'est
donc
ça, exactement. On a un mélange de plusieurs espèces. Il y a des figuiers, il y a des tilleuls, il y a des oliviers, assez logique pour cette région du sud de la France. Et tout ça vous permettra, surtout, il a travaillé sur la lumière à travers ces arbres pour faire une espèce de balade sans fin et surtout en continu de ce que l'on va voir dans l'espace.
D'accord. J'ai l'impression que c'est immense. C'est pas sur les photos qu'on peut trouver sur Internet et sur Europe1.fr aussi.
C'est très grand,
non?
Oui, c'est très très grand. Il y a le château, il y a le jardin et puis il y a cette espèce d'ovni en plein milieu. C'est une bâtisse. Là aussi, alors ça reprend les lignes de l'espace concret, comme on dit, c'est simple, c'est minimaliste. Mm-hmm. Et la couleur, c'est vert, jaune, fluo.
C'est des lignes, c'est rectangulaire.
C'est ça. Et c'est à l'intérieur qu'on trouve 70 œuvres, plus ou moins, ça varie selon les expositions, de la donation Albert Honegger. Et tout ça sur plusieurs étages. C'est vraiment très, très, très surprenant.
Fondation Albert Honegger. Bon, là, je ne connais pas bien. Qui sont ces personnes ?
Alors, en fait, il s'agit de Gottfried Honegger et Sibylle Albers, qui étaient un artiste et une collectionneuse suisse. Mmh. Et ils ont légué leur collection à leur mort, à la France.
À la France ?
Exactement.
Merci beaucoup.
Et ils n'ont pas arrêté pendant toute leur existence d'enrichir leur collection d'art concret, donc, c'est le terme. Et c'est aujourd'hui que l'on vient admirer dans cet endroit vraiment hors du commun leur collection qu'ils ont léguée à la France.
Alors, c'est intéressant ce mélange de ces trois lieux-là. Pour en savoir plus, eh bien, nous avons la chance d'être en ligne avec Fabienne Grasser Fuchéry, la directrice du lieu. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors, c'est vraiment original, cet endroit, ce mélange de ces trois espaces qui ne se ressemblent pas, le château, le jardin, le bâtiment ultramoderne. D'abord, avant de décrire ça, un mot sur Gottfried Honegger et Sibylle Albers. Je prononce bien, là, ça va ?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Alors, Gavin, ça dit que l'art concret, c'est un art basé sur les lignes, là, je le vois avec le bâtiment, sur les surfaces et sur les couleurs. Est-ce que je résume bien ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu paradoxal parce que les visiteurs s'attendent à voir des choses concrètes, donc en général figuratives. Donc, on les prend tout de suite à revers. Donc, c'est de l'art abstrait, géométrique. Mais pour ces artistes, il n'y avait rien de plus concret, finalement, qu'une ligne, une forme géométrique. Et c'est vrai, quand on commence à dessiner, quand on est enfant, quand on dessine un bonhomme, on fait un cercle, des lignes, un triangle. Voilà, donc c'est pour eux un langage universel qui peut s'adresser à tout le monde et être compréhensible par tout le monde.
D'accord. Alors, très précisément, maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans cet espace qui est dédié à la donation là ?
Alors, on voit la collection permanente qui est en dialogue avec la collection Lambert, qui est aussi une collection de l'État.
Il y a une partie de la collection Lambert ? Ah, d'accord.
C'est ça, qui est en dialogue. Donc, il y a un réaccrochage annuel. Et puis, il y a aussi un artiste qu'on a invité en résidence, qui a fait une résidence aussi en entreprise, dans une parfumerie située à Montsartou. Et donc, on accueille aussi des artistes en résidence.
D'accord, vous faites donc des expositions temporaires, c'est ça. Et alors, ils se présentent tous, du coup, les artistes, comme des artistes concrets, eux ?
Oui, pas tous, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est quand même très limité dans le temps. Hein. C'est vraiment les années 30, comme vous l'avez très bien dit. Mais il y a toujours des artistes qui, bien sûr, prolongent la réflexion sur ce type de travail, sur la géométrie, et puis sur l'idée d'un langage, en fait. C'est-à-dire que d'un langage universel, donc comment s'adresser aussi au public à travers des générations et des sociétés très, très, très différentes.
Mais ils travaillent sur toutes sortes de supports. Il y a des tableaux, il y a des sculptures, c'est en plastique, ça ne l'est pas, etc. etc. C'est très varié, non ? Apparemment.
Ah oui, oui, tout à fait. Et puis on a aussi une collection de design aussi qui est assez importante. Donc on a aussi des chaises, des tapis. Des services, puisque l'idée de ces artistes, c'était aussi que finalement le beau devait être accessible à tous autour de nous et pas seulement accroché sur les murs, mais aussi avoir un beau bureau, une chaise, belle chaise.
Oui, c'est ça. Oui, alors là, pour le coup, concret, on le comprend très bien.
Voilà,
parce
exactement.
Que ces artistes-là, même les artistes du Bauhaus, à l'époque, dans les années 30, on pouvait s'asseoir sur la chaise, quoi. Elle était a priori faite.
Exactement. C'est un mouvement qui est tout à fait en lien avec le Bauhaus.
Ah,
exactement,
oui, parce...
ça.
Moi, ça m'a frappé, ça, parce que c'était des choses qui était assez pratique. C'est beau, c'est une œuvre d'art, mais après tout, si vous les asseoir dessus, c'est ce qu'on fait maintenant. Il y a des répliques qui existent, et c'est très confortable en plus.
C'est ça.
Alors, vous proposez d'ailleurs dans cet espace des choses différentes. J'ai vu ça sur le programme, il y a un yoga brunch. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah oui. Ben, on accueille un professeur de yoga qui vient le dimanche matin proposer de faire du yoga entouré des œuvres, en lien avec les œuvres, donc travailler sur les énergies, les couleurs, et après, bien sûr, le repos du guerrier. Un brunch.
Alors, il y a des visites guidées en famille, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des ateliers de danse, c'est vrai ça ?
Oui, bien sûr. On a des ateliers qui se font directement dans les salles au contact des œuvres. Mmh. Et l'idée, c'est de découvrir aussi autrement, de désacraliser un peu parfois les espaces d'expositions qui sont jugées parfois inaccessibles. Et oui, là, non. C'est avoir une autre appréhension de l'œuvre aussi.
Oui, mais c'est ça qui est bien, parce que ce château, bah, c'est un château, ça se visite. Le jardin, évidemment, on va y revenir. Mais ça fait un peu peur, parfois, l'art contemporain. Vous le savez bien, et ça rebute au niveau de l'art contemporain, je ne suis pas très pour. Mais là, c'est une autre manière de voir les choses. Hein. Moi, je dirais, c'est vraiment concret. Je comprends beaucoup mieux le nom maintenant. On trouve aussi d'autres choses à voir. Alors là, c'est le coup du jardin. Et il a été aménagé, mais on peut faire des promenades dans la forêt aussi.
Tout à fait. Il fait quand même plus de 2 hectares, presque 3 hectares. Et là, il y a un projet d'extension. Donc le parc va s'agrandir encore. Et partir du mois de mai, le parc va être encore plus grand. Et Gilles Clément a travaillé sur cette extension.
Ah oui, là aussi. Bon voilà, il faudra que les auditeurs d'Europe 1 qui nous suivent le samedi comprennent ça. Ce lieu est intéressant pour 3 raisons. Parce qu'il y a cet espace d'art contemporain, il y a ce magnifique château et puis il y a ce jardin, c'est très riche. Merci beaucoup pour cette visite rapide, Fabienne, et bravo. Bon
merci
après-midi.
Beaucoup à vous. Merci.
Au revoir. On peut y aller facilement, Gavin ?
Oui, bien sûr, c'est ouvert d'octobre à juin, du mercredi au dimanche, de 13h à 18h, et tous les jours, en juillet et août, de 11h à 19h. Ça coûte 7€ l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. L'art contemporain, gratuit pour les moins de 18
D'accord.
ans, c'est sympa.
Alors, une adresse pas trop loin, dans ce coin-là,
on est dans le sud, ça sent bon, on a parlé des oliviers. Alors, un petit moulin, le moulin d'Opio, à Opio même, c'est à 7 km de l'espace d'art concret. C'est un moulin dans la même famille depuis 1878, et c'est là où c'est tout simplement le plus gros producteur d'huile d'olive du département. Donc c'est assez sympa. On peut visiter le moulin, on peut faire une visite guidée et surtout on peut racheter des produits en sortant si on a envie. Le moulin d'Opio à Opio.
Mont-Sartou. De toute façon, il y a un S à Sartou, donc fait la liaison obligatoirement.
Mont-Sartou. L'espace de l'art concret.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Chers amis, nous voici maintenant à Grenoble. Vous en étiez peut-être pas aperçu. Eh bien oui, on est là-bas, à Grenoble, capitale des Alpes françaises, célèbre à plusieurs titres, je vous le rappelle. Hein, c'est une ville qui a été, déterminante pour la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le Vercors. C'est une ville qui a été ville olympique. Vous vous souvenez des triomphes de l'ami Jean-Claude Killy, c'est la ville Stendhal. La ville Stendhal, oui. Enfin, c'est la ville natale de Stendhal. Attendez, il y en a un autre. Champollion y a vécu. Il a laissé là-bas quelques merveilles. Bon, il y a des gens très bien à Grenoble, d'autant qu'on y trouve aussi le siège des éditions Glénat, d'un très grand éditeur, notamment de livres de montagne, mais pas seulement, aussi de bandes dessinées, bien sûr, entre autres le célèbre Titeuf. Et là, ça nous intéresse. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pas banal, n'est-ce pas, Gavis, cette histoire de bandes dessinées et de l'éditeur Glénat.
Exactement,
Jacques de son prénom.
William, vous allez voir, ce n'est pas banal. Vous l'avez dit, ce siège des éditions Glénat, il est installé dans un ancien couvent. Alors, il s'appelle le couvent Sainte-Cécile, il est dans le centre historique de la ville de Grenoble. Il a été construit au XVIIe siècle et il a une histoire vraiment rocambolesque. Hein. Il a d'abord été occupé par les religieux, il a été occupé par l'armée pendant 2 siècles après la Révolution. Il a été réhabilité ensuite complètement ces dernières années par Jacques Glénat et en effet, il y avait du boulot. La chapelle avait été converti en magasin pour le matériel des troupes, rien que ça. Il y a même eu un dancing à l'intérieur du couvent, il y a eu un théâtre. Donc il a fallu redonner tout son lustre à cet endroit.
Oui, il a tout fait ce couvent-là. Et tout ça se visite, bien sûr.
Oui, bien sûr. Alors la chapelle a été restituée, on a créé des vitraux aussi, le cloître a été restauré. C'est vraiment un lieu qui a retrouvé, j'ai envie de dire, toute sa beauté et son premier objectif, qui était quand même religieux.
Oui, on pourrait s'arrêter là. Mais ce qui augmente, me semble-t-il, la qualité de la visite, c'est qu'on ne vient pas seulement pour le cloître. Quoi.
Non, pas du tout. Parce que cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'au sein du cloître, vient d'ouvrir le cabinet Rembrandt.
Alors, je disais tout à l'heure, comme le peintre, oui, et pour cause.
Oui, exactement. Il s'agit d'un espace qui était dédié pour accueillir les gravures de Rembrandt, donc le célèbre peintre. Et là, c'est une collection unique de 80 eaux-fortes.
Ah, d'accord. Vous pouvez rappeler ce que c'est une eau-forte, là ?
L'eau-fort, c'est une technique de gravure d'un métal réalisé grâce à un acide.
Ah bon.
Sur la surface.
Alors, tout ça se passe à Grenoble. Justement, on parlait de lui il y a un instant, Jacques Glénat, éditeur, fondateur de la maison qui porte son nom et président du fonds Glénat. Alors, bonjour Jacques.
Bonjour.
Un mot sur les lieux d'abord. Ce couvent, ça doit être assez agréable. D'après les photos que je vois là, d'y travailler, non ?
Ben oui, parce que c'est calme. Ce sont les murs très épais, les portes basses. Il faut se baisser pour les passer. Mmh. On y sent encore l'âme des Bernardines. Et c'est un bel endroit pour travailler tranquillement.
Elle s'appelle les Bernardines. Venons-en à la collection de gravures de Rembrandt qui nous amène, mais on en profitera aussi pour visiter le couvent. Comment la collection est arrivée là ?
Bah, Glénat, c'est une maison d'édition qui travaille beaucoup dans la bande dessinée et le manga, donc dans le dessin et avec des raconteurs d'histoire. Mmh. Et moi, j'estime que Rembrandt, c'est un raconteur d'histoire, que ce soit à travers ses sujets personnels de sa famille, les gens dans la rue, il aimait beaucoup peindre les pauvres, les vagabonds, que ce soit ce qu'il a fait surtout autour des scènes bibliques qui racontent des histoires magnifiques. Et donc, on a trouvé que ça allait bien avec la bande dessinée et que Rembrandt était quelque part un peu l'ancêtre de la BD. Avec une habileté, avec son stylet sur les plaques de cuivre de ses gravures, équivalente à celle d'André Franquin pour dessiner Gaston Lagaffe. C'est la même chose.
Et la référence, est, Franquin, c'est un des génies de la BD. Ça, c'est sûr. Alors, c'est drôle parce que je ne connaissais pas ces œuvres-là, le travail de Rembrandt sur ces sujets. Je ne sais pas si je suis influencé par vos éditions, que je connais bien. Mais c'est vrai que parfois, on dirait des bulles de BD. Et puis, il y en a d'autres, on dirait du Daumier aussi. C'est finalement assez moderne. Et pourtant, il a fait ça, quoi, au 17e, non ?
Oui, tout à fait, au 17e. Il en a fait près de 300 de ses gravures qu'il imprimait lui-même sur sa presse. On la voit toujours quand on visite à Amsterdam, la Rembrandt House.
La maison,
Et donc, il les vendait comme ça. Il a inventé la vente par correspondance. Il les envoyait un peu partout en Europe. Il a inventé le selfie, puisqu'il se dessinait lui-même en autoportrait avec des clins d'œil. Donc, c'était un homme génial.
Oui. J'ai cru comprendre, d'ailleurs, que vous mêliez les deux, c'est-à-dire cet art-là de cet homme-là du 17e, et puis tous les outils numériques aussi, actuels, pour montrer ce côté un peu ludique. Parce que quand on voit ce personnage, on dit, tiens, il ne doit pas être marrant tous les jours, Rembrandt. Ben si, au fond, finalement, il était
Au fond, il était certainement très drôle. Et puis, le numérique a permis d'offrir une exposition qui intéresse tout le monde, les enfants, les parents, les adultes, etc. Puisque, par exemple, les gravures de paysages, on les a animées comme des séries de dessins animé, on repart de la gravure et on la fait bouger, donc ça intéresse tout le monde et ça fait revivre ces gravures qui ont 350 ans.
Alors ces œuvres, il faut le savoir, mettent l'accent sur la technique, la fameuse technique du clair-obscur. Comment on peut expliquer ça, le clair-obscur ?
Oh, c'est très simple, chez Rembrandt, le clair-obscur, c'est utiliser le blanc du papier pour éclairer le dessin au noir qu'il fait à l'encre. Et cette habileté, elle est absolument diabolique, puisqu'on a l'impression que les scènes sont éclairées par derrière, alors qu'en fait, ce n'est que le blanc du papier qu'il a laissé entre ses traits noirs qui donne cette impression. Donc, effectivement, on a mis l'accent dans cette nouvelle exposition Rembrandt, parce qu'on fait tourner les gravures de manière à ne pas les laisser trop à la lumière, vu leur âge et leur fragilité. Donc là, on vient d'inaugurer une saison 2 avec d'autres gravures de la collection, et avec un focus sur le clair-obscur chez Rembrandt, qui en a été un des maîtres.
Oui, parce qu'en plus, c'est un technicien. Il a inventé beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, mais il a inventé ça aussi. Comment on fait pour les préserver ? Parce que vous l'avez dit, c'est fragile, ça. On les fait tourner, mais on ne les éclaire pas trop, finalement.
Alors, on les éclaire avec des systèmes particuliers qui sont doux, pour pas que, effectivement, elles jaunissent. Ensuite, on les conserve au noir pendant au moins 6 mois avant de les exposer, de manière à ce qu'elles ne bougent pas avec l'âge.
D'accord. Moi, je bouge avec l'âge, je peux vous dire. des expositions à venir, là, dans les mêmes lieux ?
La prochaine, c'est en novembre. Et c'est Douaneau qui fait du vélo, puisque Douaneau a fait beaucoup de photos de vélo. Grenoble est un peu la capitale du vélo. Mmh. Et donc, on va montrer les très, très belles photos de Douaneau sur le thème du vélo, comme on l'avait déjà fait sur le thème de la mer ou de la montagne. Et ça, c'est à la fin de l'année.
Alors, je voudrais en profiter, puisque je vous ai au téléphone devant nos amis d'Europe 1, là, Jacques, pour rappeler quand même que c'est vous qui avez apporté en France un personnage, Akira. C'était il y a quelques années, quoi. Je sais pas... 20, 30, 30 ans.
C'était en, oui, en 90, donc le temps a passé.
Et oui, mais Akira, c'est le manga, quoi. C'est
oui, c'est ça, c'est le manga. C'est le personnage un peu emblématique de l'arrivée du manga ici en Europe, puisqu'on a commencé par Akira. Après, il y a eu plein de séries, oui, comme Dragon Ball ou One Piece, oui, qui ont des succès colossaux en ce moment. Oui. Mais c'est vrai que c'était à l'origine.
Oui, ça, ben voilà, précurseur. Merci de la visite, en tout cas.
Eh bien, merci, à la prochaine.
À la prochaine, bon après-midi, au revoir.
Au revoir.
Alors, Gavins, on a compris, c'est à Grenoble. Comment on fait pour aller visiter ce couvent Sainte-Cécile ?
Eh bien, c'est très simple. C'est ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Alors, c'est fermé le dimanche. Mais 7€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Et donc, c'est sympa pour aller découvrir ce fameux cabinet Rembrandt.
Ah oui, le cabinet, ça, c'est rare. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça en France.
Non, c'est assez unique et ça vient d'ouvrir, donc on en profite.
Oui.
C'est sur Europe,
hein. Ah bah, parce que, Coco, on est dans l'actu ici. Pour manger, dormir dans le coin.
Ah, alors, on va manger une pâtisserie. On va aller au Chardon Doré à Grenoble. C'est une pâtisserie qui est réputée, notamment pour ses spécialités à base de noix. Alors, une petite tarte aux noix après Rembrandt, ça vous dit, non, William? Non, vous voulez pas?
Une noix.
Au Chardon Doré, c'est la pâtisserie à Grenoble, à côté du couvent Sainte-Cécile, pour aller découvrir.
Non, mais si vous passez dans le coin, ou bien déplacez-vous, parce que ces gravures sont assez rares.
C'est assez beau.
Ouais.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
On continue nos visites, il y en a 4 par émission. Voici maintenant un site du savoir-faire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça va nous conduire dans le Tarn, parce qu'on change de département à chaque fois, ou de région. Et cette fois-ci, elle a découvert d'une technique, alors qui a fait la renommée de toute la région. C'est le cas, avec une halte, on s'arrête sur la route du pastel. Alors, pourquoi le pastel? D'abord, qu'est-ce que c'est que le pastel? Pourquoi s'il y a une route? Et pourquoi ce département? Ça fait beaucoup de questions. Il va répondre dans l'ordre, le jeune Gavins, Clémenté Ruiz du Guide du Routard, qui lui-même est un bleu. Allons-y.
C'est élégant.
Un bleu, ben oui, ça veut dire que vous êtes jeune.
Je suis un petit bleu. William, quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit que c'était vraiment pour cette émission. C'était parfait. On va découvrir la folle histoire du pastel. Il y a vraiment une
folle
histoire.
Elle est folle, vraiment.
C'est vraiment une. Je trouve ça magique. C'est très romanesque. C'est une histoire comme on en invente très peu. Il faut remonter. On ne l'invente pas d'ailleurs, c'est réel. Il faut remonter au XVIe siècle. La couleur bleue, à l'époque, n'est pas utilisée pour les vêtements en Europe. C'est Saint-Louis. On doit à Saint-Louis, quand il est de retour des croisades, quand il n'était pas encore saint, il est passé devant la Vierge Marie et il était à la Sainte-Baume et il est tombé en extase devant le bleu de la Vierge. Et il s'est dit
Ah bon, il y avait quand même du bleu quelque part.
Exactement. C'était sur une statue, le bleu de la statue. Et donc,
pas pour les vêtements. Hein, d'accord. Non. On pouvait avoir, la peinture bleue existait.
Exactement. Mais on ne l'utilisait pas pour la teinture.
Ah,
et ce bleu habille la Vierge et le fascine. Et il se dit qu'à partir de ce moment-là, ça va devenir la couleur des nobles, tout simplement.
Il se dit pourquoi on n'en ferait pas des tissus de
exactement,
cette couleur-là.
Exactement, pour les nobles, pour les uniformes dans l'armée. Et pour teinter les vêtements, on a cherché des techniques. Et il y avait le pastel qui existait à l'époque dans la région d'Amiens, dans les ortillonnages.
Alors deux choses, c'est qu'ensuite, quand on voit des peintures de l'époque, les manteaux royaux étaient tous bleus, festonnés avec des fils dorés. Mais c'est vrai que le bleu est devenu la couleur de la royauté.
C'est ça.
C'est incroyable ça. Ça a commencé là.
C'est un peu le bleu européen, vous trouvez?
Oui,
pas,
oui, exactement.
Ça ressemble un peu à ça.
Ouais, c'est
et c'est, en fait, à l'origine, le pastel, c'est quoi? C'est une plante. Hein. Ses feuilles donnent un bleu exceptionnel. Alors, il y a toute une technique, on va le découvrir. Et on les faisait sécher, on les disposait en forme de coque sur des cagettes en bois. Tout ça se situait après, parce qu'on a épuisé le stock vers Amiens. On s'est déplacé dans le sud, où il y en avait aussi. Et ça s'est fait dans la région de Toulouse, Albi et Carcassonne. Et comme on parlait de ces coques que l'on faisait sécher en forme de coque, cette plante, eh bien, ça va devenir le pays de Cocagne.
Oh.
Eh ouais.
Ah, ça vient de là?
Ça vient de là, en l'occurrence. On a donné ce surnom à cette région.
Bon, d'accord. Et vous m'aviez dit qu'on en vendait à l'époque des tonnes, non?
Plus de 50 000 tonnes par an, William, vous imaginez? À l'époque.
Encore, non, à l'époque.
Non, non, à l'époque. Ah, à bon. L'époque. Mais il y a eu, l'évolution du
ah,
temps.
Oui.
Il y a eu l'indigo qui est venu du Portugal, qui était beaucoup moins cher.
Ah,
et puis,
voilà.
Ça a entraîné, bien sûr, la chute de la production du pastel dans le Tarn. Il y a eu aussi les guerres de religion. Et puis, plus tard, il y a eu l'indigo de synthèse. Et ça a un peu
oui,
signé la mort.
Est-ce qu'ils ont eu le temps de penser à classer ce pastel-là, je ne sais pas, au patrimoine mondial?
Eh bien, ça vient
quoi.
D'arriver. Là, c'est le ministère de la Culture en France qui a décidé d'inscrire
ah ouais
le pastel, attention, au patrimoine culturel immatériel français des savoir-faire liés à la teinture au pastel en pays de Cocagne.
C'est un peu long sur la carte de visite.
Tout est dit dans la formule quand même. En gros, pour dire que le pastel est quand même quelque chose qu'il faut préserver.
Mais on peut encore teindre du tissu au pastel ou pas ?
Eh bien oui, c'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle. Je vous propose d'aller à Cambounet-sur-le-Sor, rien que ce nom.
C'est joli ça.
Cambounet-sur-le-Sor, c'est un
Cambounet.
Peu mieux.
Cambounet, bonjour mon petit Cambounet.
Cambounet-sur-le-Sor. C'est là qu'on trouve eh bien, un atelier. On peut y aller soit en simple spectateur, mais on peut aussi mettre la main à la pâte, parce que pâte... Pastel, ça vient de là.
Oh,
et ouais.
Ben, j'ai appris deux trucs, dis donc.
Pas mal, hein.
Ouais, c'est bien. Alors écoutez, ça tombe bien parce que nous sommes en ligne avec Bruno Berthoumieux au château des plantes de Cambounet-sur-le-Sor, parce que j'aime bien ce nom. Alors écoutez bien, Bruno, il est artisan, pastelier et aussi le seul producteur et teinturier sur le pays de Cocagne. Bonjour Bruno.
Bonjour William.
Alors, vous êtes donc artisan pastelier. Une confirmation d'abord. Le pastel, c'est bien une plante qu'on fait sécher et ensuite on utilise le bleu pour teindre les vêtements. On est bon là ?
Exactement. En fait, la plante, c'est la même famille que le colza.
D'accord.
La différence essentielle avec le colza, c'est que vous coupez cette plante, au contact de l'air, la sève s'oxyde et devient bleue.
Ah, voilà. Parce que vous, je me disais, le colza, ça n'a jamais été bleu, mais...
Exactement.
C'est parce que c'est en vieillissant, d'accord. Après, oui,
exactement.
D'accord.
Mais c'est la même famille, sauf que le pastel, on utilise la sève qu'on fait oxyder et qu'on récupère pour la teinture.
Alors, il y a un truc qu'on n'a pas forcément compris, c'est le coup de la coque. C'est quoi, ça, l'histoire de la coque ?
L'histoire de la coque, en fait, le pastel, c'était les femmes et les enfants qui ramassaient les feuilles les plus jeunes.
Oui.
Au solstice d'été, parce que c'était la journée la plus longue, oui. Elle les lavait, les séchait, et on les faisait macérer. Quand la macération était terminée, ils moulaient des sphères en forme de coque.
Ah, d'accord.
Et ces sphères étaient mises à sécher dans des clés, dans des séchoirs à pastel, et en fait, ça servait de moyen de transport pour l'emmener sur des charrettes jusqu'à Toulouse et toute l'Europe, pour alimenter les ennoblisseurs de tissus, les teinturiers européens.
Mmh. Mais comment que pastel, au début, Gavis nous a dit que c'était cultivé à Amiens, puis après, ben, je ne sais pas pourquoi, il n'y en avait plus, et il s'est retrouvé dans le Tarn.
Très simple, la plante est une plante qui est dite thermophile. Thermophile, elle a besoin de chaleur pour développer sa sève. Et comme dans la région d'Amiens, en fait, quand le Saint-Louis a décidé d'avoir le bleu pour les
vêtements,
les teintures, il y a eu une énorme demande. Amiens, qui faisait déjà du bleu avec ce qu'on appelle la guêle, le problème, c'est qu'il faisait, vu les conditions météorologiques, il faisait qu'une récolte par an.
Ah ouais.
Alors qu'il y a un pied de pastel qui est parti d'Amiens, qui s'est retrouvé ici dans un petit village qui s'appelle Lombers. Et ici, avec les chaleurs locales, et au lieu de faire une récolte, ils faisaient 7 récoltes.
Quel est le lien entre le pays de Cocagne et la coque? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le mât de Cocagne, c'est quoi? Quel est le...
Oui. La coque, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un hectare de pastel rapportait plus que 3 hectares de blé.
Mm-hmm.
Et donc, toute l'année, il y avait 240 000 personnes qui travaillaient là, qui extrayaient le pigment. Et ce qui s'est passé, c'est que ce pigment, donc, pour protéger la récolte de l'année, la légende dit qu'il le mettait au sommet du mât de Cocagne.
Ah,
mais ouais. Bon... Ouais.
Ça fait rien, c'est une légende, c'est bien. Nous, on aime bien ici.
Voilà.
Alors, une fois qu'il est sec, là, le pastel, on fait quoi après ?
Alors, une fois qu'il est sec, vous avez deux solutions. Soit vous le gardez, et là, plus la coque va être conservée, plus elle va avoir une qualité de teintorial importante. Soit vous décidez de teindre, et il faut la dissoudre dans l'eau. Et pour la dissoudre dans l'eau... Eh ben, on va la réhumidifier. C'est-à-dire qu'en fait, quand les coques arrivaient à destination, ils mettaient dans une cuve, ils dissolvaient cette coque dans de l'eau chaude. Le pigment se dissout, suivant une technique bien spécifique. Une fois qu'il est dissous, en fait, quand vous trempez votre tissu dans la cuve, au contact de l'air, ce tissu devient bleu.
Alors,
ça s'appelle la teinture par oxydation.
Ah, d'accord, mais c'est toujours bleu.
Alors, bleu plus ou moins foncé. mais bleu en fonction du nombre de bains que vous allez faire, mais c'est toujours bleu.
D'accord. On peut venir suivre un atelier chez vous pour voir comment se passe tout ce que vous venez de nous dire, là.
Tout à fait. Alors nous, sur le site, on est le seul site en Occitanie où les gens voient toute l'ensemble du système. Ils voient le champ, ils voient l'extraction de l'indigo, puisque indigo est un terme générique qui veut dire bleu.
Ah.
Indigo de pastel.
Mmh.
Et ensuite, ils ont la possibilité d'acheter une écharpe ou un t-shirt sur site. Et ensuite, ils font leur propre expérience. Comme ça, s'ils le loupent, c'est de leur faute. On n'a pas de problème. Dans... c'est plaisant.
Oui. Ils disent, c'est pas nous. Hein, oh.
Non.
Si tu veux louper, c'est ta faute, mon pote.
Exactement.
Est-ce qu'on peut teindre n'importe quel vêtement là? On est sur place, on essaye de faire ça comme les artisans. Non
ou... tous les vêtements naturels se teignent. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de vêtements sur lesquels il y a un après chimique pour protéger le produit. Et le problème, c'est que donc on a un service nous de teinture à façon, parce que vous pouvez amener votre magnifique chemise en lin qui date de votre grand-père.
Oui.
Va avoir un bleu magnifique parce que il n'y a pas d'après chimique.
Ah, d'accord. Et quand on vient chez vous, il paraît qu'on peut suivre la traçabilité du passé, c'est-à-dire.
Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que le mot pastel n'est pas déposé.
Ah.
Et il faut savoir que c'est une plante indigofère. Il existe 160 plantes indigofères. Et donc, avec une tonne de feuilles, nous, ici, de pastel local, on fait 1 kg de pigment. La même tonne de feuilles qui vient d'Inde, vous faites 200 kg de pigment.
Ouf.
Et M. Bayer Monsanto invente prix Nobel de chimie en 1883. A inventé un truc qui s'appelle l'indigo de synthèse. Et le problème de fond aujourd'hui, comme il n'y a pas de traçabilité, eh ben, vous avez, je ne dis pas que les gens qui font du pastel le font tous, mais vous avez la possibilité de faire mettre pays du cocaïne sur votre boutique avec de la synthèse. Problème de fond, c'est que prix de revient de l'extraction du pigment, 350 euros, prix de revient de l'indigo de synthèse, 15 centimes d'euros.
Il n'y a pas de droit.
Et le consommateur, il est floué. C'est comme le savon de Marseille.
Il n'y a pas de droit là-dessus. Les champs de Marseille, un vrai, bonne chance. Hein.
Voilà, exactement. Tandis que nous, on a cette traçabilité.
Ça dure combien de temps, l'atelier, à peu près?
Entre 1h30 et 2h, en fonction de votre volubilité.
C'est bien ça. Si je comprends bien, on peut avoir une écharpe qui a été tissée, je ne sais pas moi, à Castres. Elle a été confectionnée à Carmo. Et puis, elle a été teinte chez vous, à Camboudet, sur le Sort.
À Camboudet, sur Sort, c'est en France.
On dit sur Sort. C'est une rivière, c'est ça, Sort?
Oui, c'est une petite rivière, c'est à 12 km de Castres.
Ah, d'accord.
Et donc, la nouveauté, c'est qu'effectivement, on est en train de sortir cette année la seule écharpe en traçabilité totale, c'est-à-dire tissée à Castres, confectionnée à Carmo et teinte à Camboudet-sur-Sol.
Ah, c'est bien ce qu'on m'avait mis, c'était ça la traçabilité. Dites donc, au fait, comment vous êtes devenu pastelier? Vous êtes tombé dedans comme Obélix quand vous étiez petit?
Alors... C'est presque ça. Il faut savoir qu'on a la chance dans la famille d'avoir un arrière-grand-oncle qui était pastelier.
Ah.
Mais c'est vrai en plus. Et sur la ville d'Albi, parce que le pastelier notoire sur Albi, il s'appelait M. Reynès. Et notre aïeul était associé avec Reynès. Et puis j'ai travaillé pendant 17 ans dans une structure qui faisait des huiles essentielles et des plantes. Et pendant 12 ans, je me suis intéressé au pastel.
Bon, et ben voilà.
Depuis 2000 ans. Voilà. Et maintenant, je fais que ça.
Et ben maintenant, vous êtes célèbre puisque, évidemment, vous êtes interviewé sur Europe 1. Ce qui n'est pas rien, dites-donc. Bon, merci beaucoup, Bruno. Hein. Merci pour la visite. Merci pour le voyage. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller, quand ils pourront, au château des plantes de Camboudet-sur-Sort. Merci beaucoup. Exactement. Bon après-midi. Au revoir.
Merci, William. Au revoir.
Au revoir. Alors, Gavins, on va où? Ça coûte combien?
Eh bien, en fait, on appelle Bruno au château et on réserve son atelier. Ça coûte entre 13 et 15 euros l'atelier. Ça, voilà. C'est assez raisonnable.
Et ça dure presque 2h30.
Presque 2h. Hein, et on a entendu que Bruno était intarissable et il parle beaucoup. Il adore son métier et il adore vous transmettre sa passion.
Bah, donc, ils sont pas nombreux en
rapport
plus.
Rapport qualité-prix, très 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 intéressant cet atelier
je trouve,
de teinte de pastel.
Oui, et puis on repartait avec l'écharpe.
Avec votre écharpe.
Pour dormir dans le coin, on peut?
Et bien sûr, bien sûr. J'ai trouvé une adresse, la bien nommée, la Croix de pastel. Ça s'appelle ainsi. C'est au cœur de la ville de Lavaur. Alors, c'est pas très, très loin. On est dans des jolies chambres d'hôtes. Il y a une piscine, il y a un jacuzzi, il y a un hammam. Il y a une très belle bâtisse en pierre. C'est joliment décoré. Il y a des touches très modernes aussi, avec des objets qui viennent se aménager l'ensemble. C'est dans un cadre ancien, rénové au goût du jour et sous les fleurs. C'est vraiment très beau. Comptez, allez, environ 100 € la nuit à la Croix de Pastel pour continuer sur ce thème.
Alors maintenant, on a rendez-vous, écoutez bien, avec Jocelyne Béroy à Martinique, parce que ça fait plus de 40 ans quand même qu'elle sillonne le monde, c'est-à-dire l'Europe, les Antilles et ailleurs, avec son groupe, c'est Cassav. Et là, au micro de Pascal Patrice, alors Pascal Patrice est un petit nouveau dans l'équipe et qui connaît les Outre-mer, bien sûr, et notamment les Antilles. Alors Jocelyne raconte, comme le font tous nos invités chaque semaine, quelle fut son enfance dans cette île de la Martinique. Et écoutez bien, ça vous donnera peut-être envie d'aller dans ces beaux pays. Et si vous avez la chance de vous rendre là-bas, elle va même vous recommander quelques coins sympas.
Bonjour Jocelyne Béroir.
Bonjour Pascal Patrice.
Alors, vous êtes la chanteuse du mythique groupe de musique Cassav qui, depuis plus de 40 ans, fait zouker les quatre coins du monde avec des titres comme « Sillé bois » ou « Qu'est-ce à lever ». Pouvez-vous nous raconter vos souvenirs d'enfance dans votre Martinique natale ?
Ah, mes souvenirs d'enfance, c'est toujours un grand plaisir de me rappeler ça. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je viens d'une famille de 6 enfants, que ma mère avait 7 frères et sœurs, qui avaient tous des enfants. Donc, quand on se retrouvait, c'était la joyeuse bande qui pouvait être très respectueuse, n'est-ce pas, puisqu'on était éduqués un petit peu comme ça, mais également de sérieux petits bandits, quoi. Donc, on faisait des choses étonnantes comme descendre d'un escalier avec des chaises renversées. On profitait de la sieste de nos parents pour
faire des bêtises.
Oui, partir à la rivière, aller piquer des fruits qu'on n'avait pas chez nous, parce que dans les maisons, en général, il y avait toujours des arbres fruitiers, mais certes, on les avait pas tous, quoi. Donc, quelquefois, certains fruits nous plaisaient, donc on partait dans les campagnes pour aller piquer les fruits dans les arbres des autres, quoi. On fait des trucs comme ça, on s'amusait comme on pouvait.
Exactement. Et vous nous parliez de rivière, vous allez pêcher des écrevisses. C'était quelle rivière à la Martinique ?
C'était la rivière Monsieur.
Voilà.
Voilà, la rivière Monsieur, c'était qui arrivait à Chelcher.
Ok.
Qui arrivait à Lens-Madame, d'ailleurs. C'était assez rigolo. Et à Lens-Madame, c'est là qu'il y avait la maison de vacances de ma grand-mère, où les enfants restaient en général et les tantes qui nous surveillaient se relayaient pendant toutes les vacances.
Alors, quels sont les lieux, Jocelyne Béroy, que vous aimeriez nous faire découvrir pour nous donner l'envie d'aller visiter votre île ?
Il y a un tas de lieux, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez plutôt la fraîcheur, la montagne, alors bon, il y a le Mont de Rouge, et puis il y a l'ascension de la montagne Pelée à faire, parce que c'est quand même très beau. Il y a des endroits où on peut voir la Martinique des deux côtés, parce que bon, on a quand même que entre 30 et 40 kilomètres de large seulement, sur 80 de long, donc il y a de beaux points de vue là-bas. Maintenant, si vous préférez plutôt la plage, il y a encore deux possibilités, il y a la côte Atlantique et la côte Caraïbe, et puis il y a le sud, même trois. D'accord, dans le sud, on a plutôt un sable blanc, qui est beaucoup plus corallien, alors que dans le nord, il est plus ferrique, quoi. Enfin, il est plus volcanique. Donc plus noir, et la mer va prendre des colorations plus verdâtres que bleues. Alors, et donc, c'est, je trouve, un peu plus mystique. Et puis, la côte Caraïbe, qui est complètement accidentée, avec plein de vagues et compagnie, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du surf, c'est parfait par là aussi.
Voilà, mais vous, Jocelyne Béroy, quelle est votre préférence par rapport aux plages ?
Honnêtement, je n'ai pas de préférence. D'accord. Moi, j'aime la mer. J'aime la mer. Alors évidemment, je suis plus habituée à la côte Caraïbe, c'est-à-dire Caraïbe centre jusqu'au nord. Parce que je suis de là. Je suis née à Fort-de-France, mais j'ai vécu à Chelcher. Chelcher, c'est quand on remonte vers le nord, à partir du centre de la Martinique. Donc, je suis habituée à ce endroit. Mais mes parents avaient une maison à Sainte-Anne, qui est dans le sud. Donc, je me sens aussi bien, quel que soit l'endroit. Du moment que je peux m'asseoir et puis respirer un peu et plonger dans l'eau, bien sûr.
Ah, parfait. Bon, en tout cas, ma chère Jocelyne, merci. Si nos auditeurs désirent connaître un peu plus de votre parcours, ils peuvent découvrir votre autobiographie qui est sortie il y a quelques semaines dans toutes les librairies, qui s'appelle « Loin de la mer » aux éditions Le Cherche Midi.
Et il faut dire que c'est L'AMER.
Voilà, comme pour voguer carrément avec vous, ma chère Jocelyne.
N'est-ce pas?
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Merci Jocelyne, merci Patrice. Alors avec Patrice, d'autres natifs ou natives des Outre-mer, on pourra aller à La Réunion ou à la Guyane aussi une autre fois. Alors je rappelle que si on parle avec Jocelyne aujourd'hui, c'est parce qu'elle vient de publier. Alors c'est Loin de la mer, c'est L'apostrophe. AMER. Et vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Clémenté ?
Qu'est-ce que c'est beau. En effet, la côte, on peut aller à la presqu'île de la Caravelle, en Martinique. Il y a une très jolie balade à faire. Ça prend 3-4 heures. Prenez des bouteilles d'eau quand même avec vous. Mais
la presqu'île, il n'y a pas un célèbre club là-bas ?
Oh, il y a peut-être, il me semble. Doute. Alors, je n'ai pas visité. Moi, j'ai vu la résidence Océane et la place juste en face pour faire du surf. C'est génial. Le matin, ça commence très tôt. Vous allez adorer.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Petit rappel des épisodes précédents. Dans Samedi en France, au cas où vous venez d'arriver, chaque semaine, s'il vous plaît, sur Europe 1, on vous invite à découvrir des territoires moins connus des circuits touristiques traditionnels. Et là encore, ça alors, en termes de découverte, vous n'allez pas être déçus. Avec M. Gavin Clément-Terruiz, randonneur en chef du guide Tôt ou Tard, c'est le gars qui a un petit chapeau en toile, il a des grands shorts et des pattes au gaz.
C'est ça.
C'est facile à reconnaître. On va précisément vous proposer une... Alors, c'est une randonnée sur une terre qui ressemble aux images qu'on a vues de la planète Mars. C'est simple, c'est rouge. C'est rouge partout. Alors, ça se passe où ? Qu'est-ce qu'on peut y faire surtout et qu'est-ce qu'on y voit, Monsieur Gavitz ?
Que de couleurs aujourd'hui, après le bleu, on passe au rouge, William, et on va aller dans le sud du département de l'Aveyron. L'Aveyron, alors, je vous redonne deux, trois villes, c'est Rodez, c'est l'Aubrac, c'est le viaduc de Millau. Mm-hmm. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans le pays de Roquefort.
Ah, alors, Roquefort, le fromage ?
Oui, exactement. On va aller précisément dans le parc naturel régional des Grandes Causses, tout au sud. C'est un paysage vraiment accidenté. Il y a des cours d'eau, il y a des forêts de châtaigniers. Mais c'est aussi une région qu'on appelle la région des Rougiers.
Oui, alors des Rougiers, c'est ça qui mérite une explication.
Alors, les Rougiers, c'est un nom qui colle bien au lieu, qui colle bien aux chaussures aussi. C'est une terre rouge, très très rouge. Ouais. Faut prendre des vieilles chaussures.
Mais c'est la terre en question. Elle est poudreuse, c'est comme de la latérite en Afrique. Quelque chose comme ça.
Alors poudreuse, j'irai pas jusque là, mais elle est très colorée.
Elle colle quoi.
Elle colle.
Mais c'est rouge.
Ah bah c'est bien rouge. Hein. Ouais, on est sur la planète Mars. Non, c'est de la Terre tout simplement. Elle est rouge, elle est riche en fer, et on peut soit faire du vélo, soit faire de la randonnée à pied, bien entendu.
Ouais.
Et pour faire ces randonnées, eh bien, on prend un guide.
Ah quand même.
Et c'est là où on va tout découvrir. On va découvrir la richesse de ce lieu parce que il y a une richesse du paysage, mais il y a aussi une richesse tout autour de vous au niveau de la faune et de la flore. Vous allez voir.
Bon. On va voir, on va entendre plus exactement. Effectivement, nous sommes en ligne avec Fabien Bringuier, animateur et accompagnateur de l'association environnementale et sportive. C'est important, le et sportive.
Ouais.
Alors, ça s'appelle Millefeuille. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour William, bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors, j'ai des photos là, sous les yeux. C'est rouge, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le rouge assez vif d'ailleurs, c'est très surprenant. On sait comment s'est formé ce paysage-là ?
Oh oui, il y a des géologues qui ont beaucoup travaillé sur la formation de ce paysage qui est si particulier du sud d'Aveyron. Et ce qu'on sait, c'est que il y a très longtemps, il y a plus de 400 millions d'années, on a du mal à se situer, hein, mais on avait une chaîne de montagnes, une très vieille chaîne de montagnes avec des sommets qui pouvaient atteindre 6 à 8 000 mètres d'altitude comme l'Himalaya aujourd'hui.
Oui.
Et si vous voulez, le phénomène d'érosion, ces chaînes de montagnes se sont érodées et tous les matériaux, les sédiments se sont accumulés dans ce bassin du Rougier qu'on appelle aussi le bassin de Sainte-Afrique.
Mais quand on dit rouge, moi je dirais un rouge orangé, hein, pour que les oui c'est ça,
un peu ocre.
En fonction de la météo, c'est vrai qu'on a des nuances de rouge et si vous voulez, cette accumulation de matériaux riches en oxyde de fer.
Ah.
Et à l'époque, on avait un climat qui était plutôt humide, tropical, semi-tropical, et cette humidité plus de l'oxyde de fer, c'est de la rouille.
Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Bah tiens, voilà. La bonne idée, c'est d'appeler ça de la rouille, comme ça, ça va un peu plus nous aider. Ce qui est intéressant dans ce pays-là, c'est qu'il y a, et ça, on ne pouvait pas le savoir, il y a une faune et une flore assez exceptionnelles et qu'on ne trouve pas ailleurs, finalement, non ?
Alors, on peut trouver certaines espèces ailleurs, parce que si vous voulez... Dans le Rougier du Camarès, on a cette influence méditerranéenne. Alors, on pourrait trouver certaines espèces en zone méditerranéenne. Ce qui est important, c'est la, c'est la flore. Beaucoup de passionnés de botanique qui viennent observer. On sait qu'en France, il y a 6000 espèces de fleurs. Dans l'Aveyron, on en a environ 2500. Et dans cette partie, cette entité paysagère là, du Rougier, on en a environ plus de 1000 espèces.
Donc le guide, il est un peu là pour ça, pour vous dire que c'est 2000 espèces. Moi, j'en ai 4 différentes dans mon jardin, vous vous rendez compte, vous en avez 2000. Vous. Il est là pour nous expliquer comment ça s'appelle, etc. D'où le nom de votre association, c'est ça?
Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Et non, parce que ça s'appelle millefeuille. Bon, maintenant, moi, j'avais trouvé ça logique. Combien
on ne vend pas de pâtisserie.
Dommage. La balade, ça dure combien de temps?
Bon, ça dépend, il y a plusieurs formats de balades, ça peut être à la demi-journée, ça peut être à la journée. Puis ensuite, il y a des projets d'itinérance qui ont été portés par l'Office du tourisme de la Rougier-Aveyron-Sud sur le territoire avec le parc des Grands Causses. Et du coup, il y a plein de parcours possibles sur le territoire.
D'accord. Alors, vous avez parlé des espèces de fleurs. 2000 sont présentes dans ce lieu. Et il y a la faune aussi. Il y a pas mal d'oiseaux. Alors, d'après la liste que j'ai vue, c'est plutôt des rapaces ou je me trompe?
Oui, on peut retrouver des rapaces sur ces milieux ouverts. Et ensuite, bon, les gens sont attirés aussi par le plus gros lézard de France qu'on va retrouver là, qui s'appelle le lézard osselet. Mmh. Voilà, qui peut atteindre, le mâle peut atteindre jusqu'à 80-90 cm. Ah, donc oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant et puis ça attire beaucoup les écoles, les scolaires et les lycées.
Mais ils se baladent comme ça ou on les en laisse?
Ah ben, on pourrait, je crois, on pourrait.
Non, parce que s'ils se baladent comme ça, mais ils sont pas belliqueux, quoi, ça va.
Non, ce sont des espèces assez discrètes, et là, ils sont, avec le froid qu'il fait en ce moment, ils sont pas encore sortis, il va falloir attendre un peu le mois de juin.
Merci beaucoup, Fabien, pour la visite rapide, et dans ce lieu qui est... Bon, à ma connaissance, il n'y en a pas 50 en France, hein, des rougiers comme ça, là.
Non, de cette même formation géologique, il y a celui-là, il y a le Rougier du Camarès, et celui que vous connaissez peut-être aussi, le lac du Salagou, dans l'Hérault, qui n'est pas très loin. Mm-hmm. Et voilà, ce sont des paysages qui se ressemblent beaucoup.
D'accord, merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir.
Au revoir, merci à vous. Au revoir.
Monsieur Gavin Clément-Ruiz, comment ça coûte la promenade là? Vous avez vu, il a dit une demi-journée. Hein, donc ça, demi-journée. Vous pouvez aller là-bas et peut-être y dormir, etc. etc.
Eh bien, comptez 10 euros par personne, c'est pas très cher.
Ah
faut,
bon
alors, faut souvent s'associer à un groupe, hein, on part pas à 2, 3, 4. Fabien, il aime bien qu'il y ait plusieurs personnes. Donc lui, il constitue les groupes, il n'y a pas de souci, il y en a régulièrement. Mm-hmm. Donc vous pouvez vous renseigner sur le site millefeuilles.fr. 10 euros par personne et on met toutes les informations. Information aussi sur europe1.fr.
Mais vous avez parlé de Roquefort, là, mais on peut aller visiter les caves aussi, tant qu'on y est, c'est pas loin. C'est...
Profitez-en, après la randonnée dans les Rougiers, allez à Roquefort sur Soulzon, alors toujours dans l'Aveyron, vous pouvez aller visiter les caves. Alors il y a bien sûr les caves Papillon, c'est une des plus connues.
C'est quoi, c'est son nom?
Ouais, la cave Papillon, le Roquefort Papillon, c'est délicieux, vous allez voir, c'est gratuit hein, pour la visite. Mmh. Après vous pouvez acheter, il y a la cave Gabriel Coulet, il y a du vieux berger.
Noms,
et oui, la cave Société aussi.
Ah, ça, je connais
le Roquefort Société. Ben voilà, c'est là. Vous pouvez aller visiter. D'accord. Et c'est souvent gratuit, mais après, vous pouvez passer à la caisse avec quelques petits fromages que vous allez ramener.
Oui, ramener ça dans le train, c'est super, le Roquefort.
Vos voisins seront contents.
Pas trop fort.
Non, ça va, c'est bien conditionné, n'ayez crainte.
Okay.
Ou sinon, vous le mangez tout de suite.
pour ceux qui sont arrivés en retard, je vais vous donner des regrets, j'espère, et vous dire ce que nous avons fait aujourd'hui dans cette émission.
Alors, nous avons arpenté un lieu hybride entre jardin, château et art concret. C'était dans les Alpes-Maritimes.
Alors, l'art concret, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, c'est de l'art contemporain, quoi.
Oui, très minimaliste, avec beaucoup de lignes, très épuré.
Concret, parce que ça peut être des œuvres d'art, comme on en trouvait à l'époque du Bauhaus, dans les années 30. Quoi.
Exactement.
Il y a des très belles chaises, des choses qui peuvent servir dans la vie, mais qui sont des œuvres d'art.
C'était à Moinsartou, exactement. On a aussi découvert la collection de gravures de Rembrandt. C'était au couvent Sainte-Cécile à Grenoble, au sein des éditions Glénat. Nous avons aussi découvert l'histoire du pastel. Ça, c'était dans le Tarn, pour apprendre à teindre ses vêtements.
Et on peut le faire. Hein.
On peut le faire soi-même.
On vous a donné les adresses dans l'émission pour vous dire, allez là-bas et dans le coin, vous allez repartir avec une écharpe que vous avez teinte vous-même, en bleu, évidemment.
Et après le bleu, on a fait une randonnée dans les Rougiers de l'Aveyron. pour avoir là du rouge plein les semelles. Mmh.
Alors pour finir, on le fait tous les samedis, on vous donne envie d'aller voir une expo ou un film ou une manifestation ou un livre. Tiens, ça, parmi le programme culturel français de la semaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention, monsieur Gavin?
Cette semaine, j'ai retenu un polar. Ça fait du bien un petit peu pour se faire peur. Ça s'appelle justement Peur en eau profonde de Olivier Descosses aux éditions IXO. Alors ça se passe du côté de Marseille. Alors on est à Marseille et tout d'un coup dans les filets d'un chalutier, un corps de femme un jour est repêché. Et voilà le point de départ de cette enquête qui est menée par une femme. Elle découvre le monde des plongeurs professionnels dans cette région de Marseille et des chasseurs de trésors sous-marins. Ça existe vraiment, j'en ai un dans mon équipe au Routard, je le salue. Et il est beaucoup question de Marseille, bien sûr,
parce que c'est ça le but du jeu.
C'est pour ça qu'on l'a retenu, ça s'appelle Peur en eau profonde. Vous allez trembler, et c'est de Olivier Descosses aux éditions IXO.
L'émission est maintenant terminée. Merci à Maryse Jacquet, merci à Christophe Pierrot, à Pascal Patrice, le petit nouveau qui nous parle de gens qui sont nés dans les Outre-mer. Merci à Morgane Biquillet et celui qui nous accompagne chaque semaine, Gavin Clémenté-Ruiz. Nous, on se retrouve avec grand plaisir samedi prochain, c'est 15h sur Europe 1, bien sûr. Bon week-end à tous.